RTN Info. Sonia Bernauer-Mia.
Bonsoir. Les travaux dans le tunnel de la Cluzette avancent à grands pas dans le Val de Travers. Le percement de la galerie de sécurité est bientôt terminé. Le chantier entre désormais dans une phase plus délicate. Projet d'envergure pour l'église catholique à Yverdon. Un centre régional de visée à 4,5 millions de francs sera bâti dès cet été. Un cinéma qui prend son temps et qui exige de la curiosité, c'est ce qui fait la particularité du Festival du Sud selon ses organisateurs. La manifestation fait son retour dès mardi à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. Nuages et pluies seront encore au rendez-vous demain matin. La limite des chutes de neige s'abaissera jusque vers 600 mètres. Dernière ligne droite pour le forage du tunnel de fuite de la Cluzette dans le Val de Travers. Avec 866 mètres excavés sur 940, le percement est à bout touchant. Le service des ponts et chaussées prévoit d'achever cette étape début mai. Les travaux se sont jusqu'ici déroulés à un très bon rythme grâce à une roche de bonne facture. Le chantier affiche ainsi 2 semaines d'avance sur le calendrier. Mais c'est une phase plus sensible qui s'ouvre maintenant. Alain Koenig, chef de l'Office des constructions et aménagement routier.
À l'intérieur, les ouvriers avancent mètre par mètre parce que c'est délicat, il faut garantir leur sécurité. Donc on a des blocs de calcaire qui sont enrobés par des marnes. Donc on les gratte et des fois ça tombe tout seul. Donc il faut faire très attention au niveau sécurité. C'est aussi pour cela qu'on avance un peu moins vite.
Oui, justement, parce que jusqu'à maintenant, vous aviez une belle vitesse de croisière.
Oui, on avait une belle vitesse de croisière. On faisait environ 6 mètres par jour à l'explosif, 2 volées de 3 mètres. Et puis actuellement, avec la géologie tourmentée, on doit plus sécuriser. Donc on va 2 voire 3 fois moins vite.
Donc cette géologie tourmentée, comment ça se traduit sur le terrain? C'est une roche très friable ou elle se décroche par gros bouts?
Oui, alors la roche est très friable. Donc des fois, c'est des gros bouts qui tombent, des fois, c'est des petits. Et puis, on a ces fameux lits de marne. Et puis, quand la masse est ensemble, ça tient. Et puis, dès qu'on va gratter, il y a tout qui tombe d'un coup.
Et donc les mesures de sécurité que vous avez imposées sur le chantier pour limiter le risque, quelles sont-elles ces mesures?
La première mesure, c'est mettre du béton projeté sur la roche pour éviter la friabilité. Et puis ensuite, on doit quand même poser des cintres métalliques pour bloquer tout ça.
Propos recueillis par David Sanchez. Une fois le forage complété, les phases suivantes consisteront notamment à poser l'étanchéité et à bétonner le soutènement des galeries. Des travaux qui devraient être achevés d'ici la fin de l'année prochaine. Et puis autre chantier en perspective, la paroisse Saint-Pierre d'Yverdon est sur le point de se métamorphoser. C'est sur son site que sera bâti le futur centre catholique du Nord-Vaudois. Le permis de construire lui a été délivré fin décembre. Ce projet immobilier a pour but de rénover la et d'offrir des structures adaptées aux besoins des fidèles de la région. L'unité pastorale Chasseron-Lac compte environ 15 500 catholiques inscrits. 3 nouveaux édifices remplaceront les pavillons jugés vétustes. Ils comprennent une nouvelle chapelle, des appartements, une grande salle modulable et des bureaux. Le projet est devisé à 4,5 millions de francs qu'il a fallu chercher à divers endroits. Christine Burkhalter, présidente du conseil de paroisse.
En premier lieu, nous travaillons avec une banque régionale qui nous suit. Nous travaillons aussi avec la FEDEC qui s'occupe des églises du canton de Vaud. Et nous louons un terrain avec un droit de superficie qui nous appartient à la rue Curti-Maillet, à la Fondation des constructions qui va construire pour Caritas un bâtiment. Et la Fédération des constructions nous fait aussi un prêt sans intérêt pour la construction.
Le chantier devrait s'ouvrir cet été et durer 1 an et demie. Un appel aux dons a aussi été lancé à hauteur de 400 000 francs pour les aménagements intérieurs et extérieurs. Le cinéma comme outil pour découvrir le monde, le Festival du Sud revient dès mardi à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds pour une 28e édition. 17 films sont au programme jusqu'au 4 avril. Une épopée algérienne ouvrira les feux au Cinéma Rex à Neuchâtel avec La Dernière Reine, présentée en avant-première. À l'affiche également le documentaire sur l'Adamant, récompensé par l'Ours d'Or à Berlin, qui parle d'une péniche parisienne accueillant des personnes atteintes de troubles psychiques. Le Festival du Sud entend proposer un cinéma différent. Alors, différent de quelle manière? Vincent Haddad, co-directeur de Passion Cinéma, l'entité organisatrice de l'événement.
Un cinéma différent dans le sens où déjà il prend le temps. Ce n'est pas des films américains au montage très, très, je dirais, heurté, hallucinant comme ça. Non, ça prend le temps. Ça prend le temps de laisser le spectateur s'immerger dans des réalités qu'il ne connaît pas. Et puis aussi, c'est un cinéma qui exige la curiosité. Il n'y a rien de plus beau que la curiosité, dans le sens que lorsqu'on est curieux, on comprend des choses. Et puis, évidemment, de découvrir l'altérité avec un grand A, c'est-à-dire les autres, ça reste toujours une expérience extraordinaire. Comme le montre un film qu'on a fait venir exprès de France, parce qu'il n'est pas distribué en Suisse, qui s'appelle, c'est un film kazakh qui s'appelle Poète, qui est une splendeur aussi absolue, tournée dans les steppes kazakhs, entre autres, et qui raconte en fait l'histoire toute simple d'un poète. C'est magnifique.
Le Festival du Sud se tient donc dès mardi jusqu'au 4 avril dans les cinémas Rex à Neuchâtel ainsi que Scala et ABC à La Chaux-de-Fonds. Les accords bilatéraux restent la meilleure option en matière de relations avec l'Union européenne. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par l'Institut GFS Bern, mandatée par l'Association des entreprises pharmaceutiques suisses. 59% des sondés ont une image positive de ces accords, contre 53% un an auparavant. En Suisse alémanique, 62% des personnes interrogées voient surtout les avantages de ces textes. C'est 10% de plus qu'en 2021. La tendance est en revanche à la baisse en Suisse romande et au Tessin. Le Salon du Livre a attiré plus de 60 000 amateurs de littérature en 5 jours à Genève. Pour la première fois depuis la pandémie, l'événement retrouvait son site habituel à Palexpo. Plus de 600 auteurs étaient aussi présents. Et ce nouveau drame en Méditerranée, au moins 29 migrants sont morts dans une série de 3 naufrages survenus au large de la Tunisie. 11 personnes ont en revanche pu être secourues après que leur embarcation a chaviré. Par ailleurs, le navire humanitaire allemand Louise Michel se plaint d'être immobilisé depuis hier par les autorités italiennes à Lampedusa. Ce bateau, décoré par l'artiste Banksy, porte généralement secours aux migrants qui se lancent à l'assaut de la Méditerranée. L'Ukraine dénonce le chantage autour du nucléaire de la Russie. Kiev demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU à ce sujet. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé vouloir déployer des armes nucléaires tactiques sur le territoire de son allié, la Biélorussie. Une rhétorique qualifiée de dangereuse et d'irresponsable par l'OTAN qui dit suivre de près la situation. Vladimir Poutine a justifié le déploiement d'armes nucléaires en Biélorussie par les démarches similaires menées par les États-Unis en Europe. Pas. 2000 têtes de béliers momifiées ont été retrouvées dans le temple de Ramsès II, une découverte réalisée dans la cité antique d'Abydos en Égypte. Des momies de brebis, de chiens ou encore de mangoustes ont également été mises au jour. Selon l'équipe d'archéologues américains qui a travaillé sur le site, il s'agit d'offrandes datant de l'ère ptolémaïque qui va des années 323 à 30 avant Jésus-Christ, ce qui prouverait l'existence d'un culte dédié à Ramsès, célébré environ 1000 ans après sa mort.
Sport.
Et à 18h08, on parle sport avec vous, Yann Esler, bonsoir.
Des têtes de bélier, on passe aux abeilles, Sonia, avec le HC La Chaux-de-Fonds qui fera face à une équipe privée de son capitaine lors du premier match de barrage de promotion-relégation de hockey sur glace. Le HC Ajoie va devoir se passer de Jordan Awert, qui a été suspendu pour un match à la suite d'un balayage sur Axel Holmström lors du match de play-out contre Langnau hier soir. La Fédération Suisse a dévoilé cette sanction aujourd'hui. Le défenseur ajoulois est cope aussi d'une amende de 1000 francs. Les abeilles se rendent donc jeudi à Porrentruy pour le premier acte de cette série au meilleur des 7 matchs. On reste sur la glace avec le curling. Le CCRO de la skip Silvana Tirinzoni a conquis à Sandviken son 4e titre mondial consécutif. En finale, les Suisses ont battu la Norvège 6-3 tout à l'heure. La formation suisse a gagné la totalité de ses 14 matchs disputés en Suède. Une consécration qui était attendue et qui est méritée. Au Mondiaux, les Argoviennes sont invaincues, je vais y arriver, depuis mars 2021 et 36 matchs. Une série absolument incroyable. En basketball, un long déplacement peu fructueux pour Union Neuchâtel. Les basketteurs du littoral se sont inclinés 88-83 aujourd'hui face à Lugano en Swiss Basketball League. Au Tessin, les hommes de Mitar Trivunovic ont perdu pied dans le dernier quart-temps qu'ils avaient pourtant entamé avec de l'avance. Peine perdue, les Luganais sont revenus et se sont envolés sur la fin de la partie. Meilleur pointeur pour les unionistes, Hakim Robertson a marqué 19 unités. Après cette défaite, Union Neuchâtel pointe à la 5e place du classement et voit les les Tessinois revenir sur eux. On joue en volleyball ce soir en Ligue Nationale B féminine. Valtra se rend chez Volleya Obwald dans la série de play-out. Match décisif vu que c'est 1-1 dans la série. Rappelons encore que Valtra, quel que soit le résultat, a décidé de retirer sa première équipe lors du prochain championnat. On passe au football. Les moins de 21 de Xamax font match nul. Un point acquis après un mauvais départ pour l'équipe des juniors de Xamax. Aujourd'hui, les Rouges et Noirs ont partagé l'enjeu de partout avec Langenthal alors qu'ils étaient menés dans la rencontre. À la suite de ce résultat un peu frustrant, les M21 de Xamax restent 9e au classement. Les SR de Lémont sont toujours en tête. On passe au motocyclisme. Francesco Bagnaia a idéalement lancé sa saison en MotoGP. Le champion sortant a remporté le Grand Prix du Portugal à Portimao. Après avoir déjà gagné le sprint hier, le pilote italien a ainsi confirmé être le candidat principal à sa succession. Sur le circuit portugais, Bagnaia l'a emporté devant l'Espagnol Maverick Vinales et l'Italien Marco Bezzecchi. En cyclisme, Primoz Roglic a remporté le Tour de Catalogne pour la première fois de sa carrière à Barcelone. Le Slovène a résisté au Belge Remco Evenepoel, vainqueur de la 7e et dernière étape. Ce dernier n'a pas pu refaire son retard de 10 secondes malgré plusieurs tentatives. À l'arrivée, Roglic a laissé la victoire d'étape à son rival sans disputer le sprint. Et toujours en cyclisme, un peu plus près de chez nous, une dernière étape disputée avec une météo plutôt exécrable. La 4e et ultime manche des classiques du littoral s'est tenue aujourd'hui à Marin. Les organisateurs annoncent que 50 courageux ont pris le départ des 8 boucles de 10 km sous le vent et la pluie. Dans ces conditions difficiles, c'est Nicolas Lutti qui s'est imposé chez les hommes devant Patrick Lutti et Raphaël Stotzer. Il remporte du coup aussi le général. Chez les dames, Lena Moisescu a remporté la victoire devant Veronika Kraft et Dunia Chaland. Cette dernière, également sociétaire du Team Prof, termine en tête du classement général. On fait un petit détour par le Valais et les championnats de Suisse de ski alpin. Et la météo difficile a eu la peau des épreuves techniques de ces championnats. Malgré le travail de nombreux bénévoles, les deux courses prévues aujourd'hui à Bruzon ont été annulées. D'abord le géant d'âme des championnats suisses, puis le slalom masculin. En cause de nombreux facteurs comme l'état de la piste d'abord, puis la neige et le manque de visibilité. Les précisions d'Éloi Rossier, président du comité d'organisation.
À l'impossible, nul n'est tenu. Donc on a été vaincu par les événements, mais j'aimerais mettre en avant, tout le monde a fait son travail, tout le monde est allé jusqu'au bout du possible, et maintenant malheureusement la décision est tombée, on doit s'y plier, et espérons que la semaine prochaine puisse être meilleure sur le plan de la météo.
Et malgré les conditions difficiles, le public a été très nombreux pour voir les champions qui n'ont pas boudé l'événement. Hier, le sacre de Marco Odermattan, géant, a été suivi d'une très belle fête populaire. Des moments de communion avec le public qui ont aussi ravi les athlètes, à l'image de Daniel Yule, pourtant privé de course ce week-end.
Ouais, bien sûr, ça fait plaisir de voir que le ski alpin il est bien vivant dans la région, que les gens ils ont vraiment du plaisir. On a reçu beaucoup de mots gentils, des gens qui nous disent qu'on les fait vibrer et tout ça, donc c'est sûr que c'est hyper agréable.
Daniel Yule, est-ce que c'était votre dernière course et du coup, est-ce que votre saison se termine comme ça ou est-ce que vous avez encore des choses prévues?
Alors je pense que la saison elle se termine comme ça, après on verra où ils reprennent les championnats suisses si je suis libre, mais le calendrier du printemps il se remplit relativement vite, mais normalement la saison elle se termine comme ça.
Saison terminée donc pour Daniel Yule et bon nombre de techniciens, mais il y aura encore des courses à Verbier cette semaine et les épreuves de vitesse de ces championnats de Suisse de ski alpin sont prévues entre mercredi et vendredi. C'était un sujet proposé par Rhône FM.